Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole, vous allez pouvoir évidemment commenter l'actualité. Nous parlerons tout à l'heure, dans 30 minutes, de la menace des islamistes dans Sardines. Ces islamistes qui ont revendiqué deux attaques le week-end dernier au Mali, l'une dans le centre du pays, près de la frontière mauritanienne, et l'autre dans le sud, près de la frontière ivoirienne. Le groupe en Sardines qui menace désormais de frapper la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Ces deux pays sont accusés de coopérer avec les ennemis de l'islam. Alors êtes-vous surpris par cette menace? Comment venir à bout de ces djihadistes qui avaient pourtant été chassés du nord du Mali en 2013 par les forces internationales et notamment les troupes françaises Serval? Quelle doit être la riposte des pays de la région? Mobilisation évidemment en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie. On a envie de vous entendre, vous qui nous écoutez dans ces trois pays. Êtes-vous surpris et êtes-vous surtout inquiet? 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook de l'émission, notamment par exemple Innocent qui est en Côte d'Ivoire et qui nous dit lui ne pas être surpris que en Sardine veuille attaquer la Côte d'Ivoire car notre pays est un état laïque. Baye lui n'arrive pas à comprendre comment un groupuscule de combattants peut tenir en haleine tout le système de défense et de sécurité des pays de la région. Voilà, on vous donnera la parole, ce sera dans 30 minutes. Mais d'abord, évidemment, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions que vous nous posez et la rédaction y répond. Première question, elle concerne la Turquie et notamment les craintes du président Recep Tayyip Erdogan. Bonjour Émile. Vous êtes à Yaoundé au Cameroun. On va tendre l'oreille, j'ai l'impression que le réseau téléphone n'est pas très bon. On vous écoute.
Ouais, je voudrais poser une question par rapport à la déclaration du président Tayyip Erdogan qui ne permet pas jamais la création.
Attendez, excusez-moi, je vous comprends très très mal. On va essayer de vous retrouver dans un instant, comme promis, ne vous inquiétez pas. Daniel est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Cotonou au Bénin. Vous avez des questions concernant la Cour pénale internationale.
Oui, moi je veux plus d'informations sur la Cour pénale internationale. Oui. De quelle manière un pays membre de la CPI peut-il se retirer de la Cour?
Ah, bonne question. Et c'est vrai qu'on en parle, et on en parle notamment en Afrique du Sud. Grosse polémique sur place depuis maintenant trois semaines, depuis l'aller-retour du président soudanais à Johannesburg pour le sommet de l'Union africaine. Je vous rappelle quand même qu'Omar El-Béchir a pu quitter l'Afrique du Sud sans que les autorités n'interviennent, alors que le président soudanais fait l'objet de deux mandats d'arrêt de la CPI et que la haute cour de Pretoria avait même interdit son départ. Du coup, l'opposition, la justice sud-africaine ont exigé des explications. Et parmi ces explications, plusieurs ministres ont clairement dit que l'Afrique du Sud pourrait envisager de quitter la Cour pénale internationale. Bonjour Karine Bonneau. Ah, alors, est-ce qu'on a Karine Bonneau avec nous au téléphone?
Je vous entends.
Moi aussi, et je suis ravi de vous entendre. Vous êtes responsable du Bureau Justice Internationale à la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Un État qui a ratifié le statut de Rome, qui est donc membre de la Cour pénale internationale, peut-il se retirer de cette institution simplement?
Oui, il peut tout à fait se retirer en notifiant au secrétaire général des Nations Unies sa décision de quitter le système de la Cour. Mais cette décision ne prendra effet qu'un an après avoir été faite. Ensuite, l'État qui décide de quitter le statut et la CPI reste tenu par ses obligations, les obligations qu'il avait avant de se retirer, notamment l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt, par exemple.
D'accord, donc un retrait n'a pas d'impact sur les affaires ou les enquêtes qui sont en cours?
Aucun. Et surtout, effectivement, un État sur le territoire duquel une enquête est ouverte, s'il se retire de la Cour, ne peut pas mettre fin à une enquête. Une fois ouverte, les enquêtes, elles perdurent, malgré l'attitude des États.
D'accord. Tout ça en envoyant une lettre au secrétaire général des Nations Unies, en l'occurrence à Ban Ki-moon.
Absolument.
C'est aussi simple que cela. Daniel, vous avez une autre question?
Oui, Juan. possible que un pays qui...
Alors attendez, on a des gros problèmes de téléphone, décidément, on n'a vraiment pas de chance. C'est indépendant de votre volonté, Daniel, et de la nôtre aussi. C'est un problème technique, probablement, je sais pas, quelque chose entre Paris et le Bénin. Vous vouliez savoir s'il était possible que certains pays africains se retirent. Alors effectivement, Karine Bonneau, c'est vrai que depuis deux ans maintenant, plusieurs pays africains ont menacé de se retirer. On se souvient même d'un sommet de l'Union africaine où plusieurs chefs d'État avait menacé de se retirer massivement du traité de Rome. Est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce que c'est crédible?
Alors c'est effectivement une menace qu'on entend beaucoup, notamment depuis que les chefs d'État africains sont eux-mêmes visés par des mandats d'arrêt de la CPI. Hein. Le président Kenyatta avait menacé le Kenya de se retirer du système de la Cour. Là récemment l'Afrique du Sud l'a dit aussi. Maintenant aucun ne l'a fait. Donc c'est vraiment une vraie menace, un chiffon rouge qui s'agite, mais pour le moment, aucun n'a pris la décision d'effectivement aller jusqu'à se retirer du système de la Cour pénale.
Ouais, c'est important de rappeler que ce sont les États qui décident de faire partie de la CPI. Ça signifie que l'Union africaine, en tant que telle, ne peut pas décider à la place des États. Donc, même si le président de l'Union africaine, en l'occurrence en ce moment, le Zimbabwéen Robert Mugabe, menace d'un retrait du continent de la CPI, lui n'a aucun pouvoir.
Absolument aucun, puisqu'en fait les États décident de ratifier le statut de la Cour pénale, donc le statut qui a créé la Cour pénale, et comme toute convention, c'est vraiment une décision souveraine des États de ratifier cette convention. Et les organisations internationales comme l'Union africaine ne sont absolument pas parties à cette Cour et n'ont aucun pouvoir autre que des pressions politiques, des menaces politiques, mais juridiquement ils n'ont aucun pouvoir pour adhérer ou pour quitter la CPI.
Ouais. Karine Bonneau, responsable du Bureau Justice Internationale à la FIDH, avec nous. Encore une autre question concernant la CPI, la Cour pénale internationale. Bonjour Djibril. Allô?
Allô?
Oui, j'allais dire c'est un jour sans. Vous nous appelez du Gabon, vous êtes à Port-Gentil.
Effectivement.
On vous écoute.
Oui, ma question est la suivante. À quoi serviront les deux plaintes déposées par l'autorité palestinienne auprès de la CPI concernant le génocide israélien tout récemment dans la bande de Gaza, quand on sait que Israël n'est pas un pays qui a ratifié les conventions de la CPI?
Oui, enfin, à aucun moment il ne s'agit de génocide dans la bande de Gaza. En tout cas, Karine Bonneau, effectivement, on a vu le ministre des Affaires étrangères palestinien transmettre à la Cour pénale internationale des documents portant sur l'offensive contre Gaza, sur la colonisation israélienne en Cisjordanie, sur le sort des prisonniers palestiniens en Israël. On voit que l'autorité palestinienne multiplie quand même les efforts pour essayer de convaincre la CPI de lancer des poursuites contre Israël. Ce qu'il faut préciser à Djibril, c'est que la procédure, déjà, pourrait durer des années. C'est une procédure très longue.
Alors, effectivement, c'est une procédure qui peut durer des années, mais qui, en fait, s'explique par le fait que la Palestine elle-même a été reconnue comme un État, et que donc, en tant qu'État, elle a ratifié le statut de la Cour pénale internationale et elle a reconnu la compétence de la Cour pénale à partir du 13 juin 2014. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la CPI a compétence pour mener des enquêtes et juger les auteurs de crimes commis sur le territoire palestinien depuis le 13 juin 2014. Alors elle a ouvert un examen préliminaire il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'elle a ouvert la phase qui est antérieure à l'ouverture d'une enquête. Donc aujourd'hui, la procureure de la Cour pénale reçoit des informations et dernièrement, effectivement, soumise par l'État lui-même. Et ces informations vont lui servir pour apprécier ou pas l'opportunité d'ouvrir une enquête sur les crimes commis en Palestine.
Alors la question de notre auditeur est intéressante. Israël n'est pas membre de la CPI. Israël ne reconnaît pas cette institution judiciaire.
Non seulement Israël n'est pas membre, mais effectivement Israël est complètement opposé à la CPI. Israël a même voté contre le statut de la Cour pénale en 1998 et aujourd'hui ne reconnaît pas du tout la compétence de la Cour sur la situation en Palestine. Mais voilà, encore une fois, peu importe juridiquement, la Palestine étant un État ayant ratifié le statut de la Cour, la compétence de la Cour s'explique par cette ratification et les auteurs de crimes israéliens pourrait être poursuivi par la Cour, même si Israël n'a pas reconnu la compétence de la Cour, parce que les crimes auraient été commis sur le territoire d'un État parti.
Oui, enfin, sans vouloir forcément polémiquer, il y a des faits qui seront concrets. Par exemple, on voit mal Israël délivrer des visas à des enquêteurs de la Cour pénale internationale pour que ces enquêteurs puissent se rendre dans les territoires palestiniens. Donc ce sera compliqué pour la CPI d'aller enquêter sur le terrain.
Ça sera effectivement complété. D'ailleurs, Israël aujourd'hui n'a transmis aucune information au procureur, y compris même à propos de crimes commis par le Hamas. Là, aujourd'hui, la procureure se base sur les informations qu'elle reçoit de la Palestine ou d'ONG ou d'autres États. Effectivement, elle n'aura sûrement pas accès au territoire palestinien, mais comme elle n'a pas eu accès non plus au territoire au Soudan ou en Libye, ce qui ne l'a pas empêché à un moment donné quand même de pouvoir émettre des mandats d'arrêt et des poursuites.
Merci beaucoup Karine Bonneau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau Justice Internationale à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. On a toujours de grosses difficultés pour établir une liaison correcte avec Yaoundé et écouter Émile, notre auditeur sur place qui avait des questions concernant le président turc. Je vais donc me faire son porte-parole. Émile a entendu sur RFI que le président turc s'opposait à la création d'un État kurde en Syrie. Et la question d'Émile, qui est compréhensible, nous dit mais pourquoi refuse-t-il la création d'un État kurde en Syrie, puisque la Syrie, ce n'est pas la Turquie. Bonjour Jérôme Bastion.
Bonjour Juan et bonjour à Émile, donc par procuration.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI en Turquie. Les propos de Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État turc, ont été très clairs. La Turquie ne permettra jamais l'établissement d'un État kurde en Syrie. Avant de répondre à la question d'Émile, un mot quand même pour comprendre la situation sur le terrain en Syrie, puisque les forces kurdes, on le voit depuis quelques semaines, reprennent du terrain face aux djihadistes.
Oui, alors, rappelons donc que cette longue frontière d'environ 900 kilomètres entre la Syrie et la Turquie est parsemée de trois cantons kurdes, trois petits départements, on va dire, majoritairement kurdes, qui sont séparés les uns des autres par quelques 150 kilomètres où les Kurdes n'ont pas ou n'avaient pas le contrôle. En fait, ils sont plus tout à fait séparés puisque deux d'entre eux, il y a Kobané, qui est célèbre depuis l'automne dernier, qui est au milieu, si on peut dire. Il y a Givré, qui est complètement à l'est, qui est frontalier avec l'Irak, et ces deux cantons ont été réunis il y a 15 jours maintenant. Les forces kurdes de Kobané ont rejoint les Kurdes de Givré en prenant le poste frontière de Tal Abyad, qui était tenu par l'État islamique, et donc ça fait maintenant une grande zone, plus grande qu'auparavant, plus grande que les deux cantons, bien entendu, d'environ 300 kilomètres, presque 400 kilomètres de continuité. Il reste donc à l'ouest un petit canton, un troisième petit canton d'Afrin, et c'est cette possibilité de réunir tous les cantons qui inquiète Ankara, bien entendu.
Mais alors pourquoi, expliquez-nous pourquoi cette nouvelle donne suscite autant d'inquiétude du côté d'Ankara ?
Eh bien, parce que, en fait, tout simplement, ce serait l'ensemble, quasiment l'ensemble de la frontière turco-syrienne qui serait contrôlée par les Kurdes. Et Ankara voit d'un très mauvais œil cette sorte d'entité étatique, même si les Kurdes de Syrie ont affirmé et répété encore ces jours derniers qu'il n'était pas du tout question pour eux de déclarer leur indépendance. Et ils veulent rester dans ce qui reste, si on peut dire, de la République arabe syrienne. Donc, il n'y a pas de querelle, de conflit véritablement, mais ces Kurdes de Syrie sont soutenus par le PKK, la rébellion kurde de Turquie. Donc Ankara considère que c'est là une extension du PKK et que donc cette entité territoriale, cette entité étatique menacerait, ça serait un état terroriste et ça menacerait la Turquie.
Donc, oui, parce que le PKK, il faut le rappeler rapidement, Jérôme Bastion, est un parti qui est interdit en Turquie. Hein.
Voilà, c'est une rébellion armée qui est en lutte contre Ankara depuis 30 ans. Et en fait, le paradoxe, c'est que depuis plusieurs années maintenant, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'affrontement, il n'y a plus de guerre civile entre le PKK et Ankara, pour la bonne et simple raison qu'il y a des négociations de paix, des négociations pour une solution, justement, à cette revendication séparatiste entre Ankara et le PKK depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas véritablement de situation de guerre. Mais on sent bien que Ankara est mal à l'aise avec l'idée d'avoir cette nouvelle, cette possible nouvelle entité territoriale à sa frontière sud, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a déjà eu, l'histoire se répète en quelque sorte dans la région, les Kurdes d'Irak, donc plus à l'ouest, frontaliers également avec la Turquie, ont déclaré leur, pas tout à fait leur indépendance, mais leur autonomie, il y a maintenant une quinzaine d'années. Ça avait aussi déjà beaucoup énervé Ankara, et puis finalement, Ankara a dû faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et là, de la même manière, depuis 2012, depuis la crise syrienne et la déclaration d'autonomie de ces trois cantons kurdes, Ankara tape du poing sur la table et répète qu'ils ne laisseront pas faire. Alors, que peuvent-ils faire, justement? Ben, pas grand-chose, un peu comme en Irak, ils seront bien obligés d'accepter cette situation, très probablement, et de faire ami-ami avec les Kurdes de Syrie, comme ils ont fait ami-ami avec les Kurdes d'Irak à l'époque. Mais il y a en arrière-plan de ce conflit froid, hein, ce conflit non armé avec les Kurdes de Syrie pour l'instant, il y a aussi le fait que si les Kurdes unissent leurs trois cantons et occupent quasiment la totalité de la frontière, il n'y aura plus de contact pour la Turquie avec les groupes rebelles syriens qu'ils sont censés défendre et soutenir et former et aider à renverser Bachar al-Assad. Ouais. Donc il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs niveaux dans ce coup de colère d'Ankara en quelque sorte, qui prépare en ce moment une possible intervention militaire, hein, il faut le savoir quand même, pour s'opposer à la réunion de ces trois cantons kurdes. Il est probable que la Turquie ne rentrera pas en Syrie, mais en tout cas, elle a posté en ce moment quelques 55 000 hommes et des centaines de chars et de véhicules blindés à cette frontière pour éviter donc la réunification des trois cantons kurdes.
Merci beaucoup Jérôme Bastion de ce décryptage. Merci à Émile, hein, qui nous appelait de Yaoundé. Rapidement, la dernière question du jour. Sédou, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Vous avez des questions sur la Somalie.
J'ai appris que les Chebabs somaliens ont attaqué plusieurs bases en Somalie. Pour cela, j'ai deux questions. Les Chebabs somaliens sont toujours aussi puissants qu'en 2011 après avoir été chassés par l'Union africaine.
Ah, vous voulez savoir si les Chebabs sont toujours aussi puissants qu'avant l'intervention de l'Union africaine en Somalie? C'est vrai que plusieurs soldats somaliens ont été tués par des islamistes Chebabs dans la nuit de dimanche à lundi. Deux jours plus tôt, ce sont des dizaines de soldats burundais qui ont été abattus toujours par les Chebabs. Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à Sciences Po. Vous travaillez notamment sur la Somalie depuis de nombreuses années. On pensait les Chebabs en perte de vitesse en Somalie. Finalement, ce n'est pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas et depuis longtemps. C'est-à-dire, on a un peu surévalué la victoire de l'AMISOM, des forces de l'Union africaine en 2011, lorsque Chebabs s'est retiré de la capitale. Et sans prendre en compte le fait que jusqu'à aujourd'hui, la capitale reste une zone très difficile, la preuve en est la forme de la présence internationale, c'est-à-dire ils sont bunkerisés sur l'aéroport international, et l'essentiel des déplacements dans la ville se fait sous très haute protection, et finalement, les déplacements d'officiels vont du compound présidentiel jusqu'à l'aéroport. Donc on le voit, c'est une victoire en demi-teinte. Qui certainement traduit une défaite militaire de Chebabs, mais en même temps, Chebabs a changé les formes de la guerre. C'est une guerre plus asymétrique qui fait que même si Chebabs contrôle moins de centre-villes, Chebabs reste extrêmement présent dans les périphéries des principales villes du centre et du sud de la Somalie et est capable de mener des actions n'importe où. De plus, comme on l'a vu notamment à partir de 2013 avec le tragique attentat contre le centre commercial Westgate à Nairobi. Chebabs est capable maintenant de se projeter également en dehors des frontières.
Oui, on le voit d'ailleurs dans le nord-est du Kenya. On se souvient de cette attaque dans l'université de Garissa il y a quelques mois, et depuis les Chebabs multiplient les actions dans cette partie du territoire kenyan, et depuis le début du Ramadan ils ont multiplié les attaques. Roland Marchal, je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne pour le point complet sur l'actualité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.